cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 7 décembre 1994.
C'est l'homme qui mesure toute chose. fin de l'être, c'est la recherche de la signification parfaite de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être considéré en lui-même et pour lui-même? Je crois que c'est cela qu'on doit saisir. La signification donnée par la détermination ou par le point de vue de Lucia, c'est la signification fondamentale, mais ce n'est pas la signification ultime et dernière. Ici, je cherche la signification ultime et dernière de l'être comme tel. Cette signification ultime de l'être comme tel ne peut être qu'un dépassement de tout devenir possible. C'est l'être comme tel. Or, le devenir prend toujours sa source dans la potentialité. C'est la potentialité qui réclame le devenir. Donc, il faut saisir l'au-delà de la potentialité pour saisir l'être qui est parfaitement lui-même comme être. La potentialité n'est pas l'être, mais source de devenir, et le devenir est pour l'être. Donc l'interrogation qu'on fait, c'est de découvrir ce qui est au-delà de tout devenir, de toute potentialité. Qu'est-ce qui est au-delà de toute potentialité? Au niveau de l'être comme tel. Et ça, ça a une signification très profonde, puisqu'au fond, c'est saisir la signification ultime de tout ce qui est en tant qu'il est. Cette signification, historiquement, c'est Aristote qui l'a posée dans le livre d'État de la métaphysique. Par la découverte de l'être en acte. Et la découverte de l'être en acte, de fait, Aristote a inventé un mot qui n'existait pas dans la philosophie avant lui, entelecheia. Il y a l'analogue, comprenons bien, pour découvrir la substance au-delà de la forme. Il a découvert le doti enainain, la quidité, pour découvrir l'acte au-delà de tout exercice et de tout devenir. Il découvre l'entelecheia. L'entelecheia, alors très difficile à traduire entelecheia, hein. Entelos ekeia, l'ayance dans la fin. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir, l'ayance en la fin. La fin m'attire, mais je ne la possède pas. Et pourtant, quand je suis lié à la fin, je la possède. Mais c'est comme le reflet de la fin dans la subjectivité de l'homme, puisqu'il s'agit de l'homme, de l'être de l'homme, puisqu'il s'agit de l'être de l'homme dans ce qu'il a d'ultime. Et pour Aristote, c'est l'être en acte qui est telos. J'ai parfaitement le droit de me servir de quelqu'un qui a découvert ça. Et si je regarde dans la philosophie, je vois qu'Aristote a découvert ça, qu'immédiatement après, lui, ça a disparu. On est retombé dans l'efficacité, dans l'efficience, dans l'exercice, avec les stoïciens. Et les disciples d'Aristote ont eu beaucoup de peine à maintenir ça. Théophraste, c'est assez lamentable, comme disciple de Socrate, de Platon, d'Aristote. Nous le retrouvons dans Thomas d'Aquin. C'est très vrai. Thomas d'Aquin a analyser toute la métaphysique d'Aristote et le commentaire de Thomas d'Aquin sur le livre d'État est très intéressant, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ce qui est curieux, c'est comme pour les États, c'est très curieux la manière dont Saint Thomas commente Aristote dans le livre métaphysique d'État. Mais ce qui est sûr, c'est que Saint Thomas a saisi que l'être un traduit tous et néa. Donc la subtilité d'Aristote de entelecheia disparaît de la traduction latine. Ça, il faut bien le reconnaître. Alors que la traduction latine a traduit quitas. Et quitas n'est pas substantia, sauf pour trigo. Mais autrement, quitas n'est pas substantia. Et c'est très facile à comprendre, puisque chaque prédicament a une quidité. Et la substance, c'est ce qui a la quidité au sens le plus absolu, aplos, de manière parfaite. Tandis que la relation a une quidité, mais très imparfaite. La qualité a une quidité, mais très imparfaite. C'est-à-dire relative à autre chose. La quantité a une quidité, mais relative à autre chose. La seule quidité qui s'impose par elle-même, c'est la quidité de la substance. Donc la quidité conduit à la substance. En latin, le mot actus, traduit entelecheia, est traduit energeia. Donc, le mot qu'Aristote a inventé, Saint Thomas ne pouvait pas le saisir, travaillant sur le latin, et non pas sur le grec. Et je crains que c'est cela qui n'a pas permis à Thomas d'Aquin d'aller jusqu'au bout de la saisie de l'acte. Il l'a saisi, hein. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas saisi. Il l'a saisi. Mais il aurait pu préciser davantage si le latin avait respecté le langage d'Aristote. Si Aristote invente un mot, c'est parce que c'est nécessaire, comme métaxu, pour arriver à l'être en acte. Autrement, il n'aurait pas inventé. C'est pas quelqu'un qui aime d'inventer des mots, Aristote. Il invente quand, de fait, il est en présence d'un métaxu. On essaiera de comprendre ça. Mais je le signale dans une topique historique, parce que c'est très important de le signaler dans une topique historique. Après Thomas d'Aquin, il faut aller loin pour trouver le point de vue de l'acte et la puissance. Parce que tous les thomistes, sous l'influence, maintenant c'est historiquement prouvé, sous l'influence de Don Scott, ont considéré que la finalité était métaphorique, donc n'atteint pas l'être. C'est ça qui a été, au fond, assez terrible pour l'histoire du thomisme. Alors là encore, c'est un problème historique extrêmement intéressant qui montre comment la scolastique, après Thomas d'Aquin, donc décadente, la scolastique a maintenu quitas et substantia et a mal traduit ousia, puisqu'on a traduit comme sujet, substantia. Et la scolastique a maintenu la substance comme sujet, et non pas comme principe selon la forme de ce qui est. Donc, vous voyez, voilà les deux défauts de la scolastique thomiste. Les deux points sur lesquels la scolastique thomiste n'a pas été fidèle à l'analyse de ce qui est en tant qu'il est. Et ça, je crois que c'est important de le sentir progressivement, de le voir progressivement. Mais pas mal de dépassements. Et voyez, quand je dis au-delà de toute détermination, c'est cela qui est le plus difficile à dépasser. Parce que notre manière naturelle de connaître les réalités, c'est de les connaître per modum quiditatis. Notre intelligence est rationnelle. Et parce que notre intelligence est rationnelle, elle connaît tout selon ce mode rationnel. C'est la pente normale de notre intelligence. Or, le rationnel, c'est saisir les déterminations nécessaires. C'est de découvrir la forme qui s'impose à nous. La quiddité, c'est la forme face à l'intelligence. C'est là où je découvre en premier lieu l'intelligibilité de ce qui est. Le non déterminé n'a pas d'intelligibilité précise. Dépasser ce mode code naturel de notre intelligence, qui est le mode rationnel, exige de nous d'aller plus loin que le point de vue de la forme, en voyant que si la forme est première dans une recherche selon la cause formelle, selon la détermination formelle, selon l'ousia, cependant, notre intelligence peut aller plus loin. Et nous le voyons bien dans l'ordre du facere, dans l'ordre de l'adjure, ce que nous avons vu précédemment. Nous voyons que notre activité humaine ne se contente jamais de la détermination. Notre agir humain veut saisir l'au-delà de la détermination dans la fin. La détermination, je la possède. La fin, elle m'attire et je ne la possède pas. Et je l'ai intentionnellement. Mais l'intentionnellement de la fin que je possède est un au-delà de l'aspect quiditatif. Donc, l'agir humain me montre le dépassement de la forme par la fin. Et ce dépassement, je le saisis dans l'ordre de l'agir intentionnellement. J'ai l'intention de rejoindre cette fin que je poursuis, ce bien qui m'attire. C'est dans l'attraction dans laquelle je me trouve, au point de vue volontaire, au point de vue de l'amour, que je dépasse le point de vue de la détermination, ce que nous avions vu, le point de vue du bien par rapport à l'être. Et ça, c'est capital. Je peux dépasser le mode quiditatif de ma connaissance en comprenant que l'amour qui est réalisé en moi, que je porte en moi grâce au bien, que cet amour est au-delà de la détermination. Le bien m'attire et crée en moi un amour. Et l'amour ne peut pas s'expliquer uniquement par ce que je connais de l'amour. L'amour est quelque chose qui se réalise au plus intime de ma volonté, comme un dépassement de la connaissance que le bien, je ne l'assimile pas intentionnellement. Le bien m'attire et me fait sortir de moi. C'est le propre de l'amour qui est extatique. Il me fait sortir de moi. Cette sortie de moi, c'est l'action directe du bien sur moi. Et là, je vois qu'il y a dans l'être quelque chose qui ne peut pas se ramener à l'acuité. Quelque chose de plus radical, ultime, que je saisis à travers l'amour et dans l'amour. Et c'est bien mon intelligence. C'est bien mon intelligence qui veut saisir ce quelque chose de l'être que j'appelle fin telos, qui est ce en vue de quoi je suis, qui me met dans cette imagination. C'est pas le devenir, c'est quelque chose de très radical et de plus radical que la quantité, que la substance. Et je veux saisir ce que c'est. Voilà l'interrogation, hein. Tout le poids de cette interrogation qui implique en elle quelque chose n'est pas de la même clarté que l'acuité, puisque c'est un dépassement. C'est un dépassement de l'aspect quantitatif. C'est mon intelligence qui sort, qui dépasse sa manière naturelle de connaître, qui est la raison. Et cependant, qui reste l'intelligence. Et c'est à travers l'amour, ce bien qui exerce sur moi cette attraction, que je peux interroger. Vous voyez, l'entelegeia, c'est à travers l'amour. L'amour me lie au bien, me lie à quelque chose qui est au-delà de moi, quelque chose qui me finalise. Et ce quelque chose qui me finalise, entelegeia, a une force d'attraction qui me fait sortir de mon mode naturel de connaître. Mais c'est encore l'intelligence au-delà de la raison. Alors voyez comme c'est important. La distinction entre raison et intelligence, ce qui a été le blocage, l'amalgame terrible qui s'est fait à partir de Descartes, qui s'est fait à partir de Occam, et qui a donné naissance à ce qu'on appelait le rationalisme. Aujourd'hui, quand on veut exprimer que l'intelligence doit aller jusqu'au bout de son enquête, on parle de rationalité. Vous êtes rationnel. C'est le primat du rationnel. Bon, nous ne pouvons pas accepter ça si on est réaliste. Parce que ce n'est pas le rationnel, c'est l'intellectuel. C'est l'intelligence. Au-delà de son mode rationnel. Et dans l'interrogation même, quelle est la fin de l'être? Dans mon interrogation, je découvre ce dépassement du mode quantitatif. C'est ça qui est très important à saisir. Je dépasse ce mode quantitatif. Je peux le faire puisque je suis dans l'ordre de l'interrogation. L'interrogation, vous avez c'est moi qui interroge. J'ai jamais découvert une interrogation en dehors de moi. Réalisez, comprenez ce que c'est que d'interroger. Socrate interroge. C'est le père de l'interrogation, Socrate. Avant Aristote. Heureusement que Socrate était là. Et l'interrogation a commencé dans l'ordre pratique. Connais-toi toi-même. C'est impératif. Et l'impératif catégorique de Kant a remplacé l'interrogation. C'est ça qui a tué l'intelligence. Parce que l'intelligence dépasse la raison en interrogeant. C'est par l'interrogation que se fait le dépassement. Et l'interrogation par rapport à la fin. Donc par rapport à l'être qui se présente à moi comme mon bien. C'est ça qu'il faut, je crois, saisir pour mieux comprendre cet effort tout à fait particulier d'une intelligence qui veut se libérer de la raison. Et quand je dis qui veut se libérer de la raison, je dis bien une intelligence qui veut être elle-même et dépasser son conditionnement pour être elle-même, pour être intellectus. Qu'est-ce que c'est qu'intellectus ? Saint Thomas le dit. Lire de l'intérieur. Or, je ne peux saisir l'acte, l'être en acte, l'être fin, que si je lis de l'intérieur le bien, en l'aimant. En aimant, mon intelligence peut lire le bien de l'intérieur. On fait cette expérience constamment. Qu'est-ce que c'est que l'ami ? C'est celui que je connais de l'intérieur. Je le lis de l'intérieur, l'ami. C'est pour ça que c'est si exaspérant, la psychologie, pour l'ami. Parce que le psychologue croit comprendre en lisant de l'extérieur. Et celui qui sait ce que c'est que de lire de l'intérieur ne peut pas supporter ça. Il faut tous avoir fait cette expérience-là. Si on n'a pas fait cette expérience-là, on sera séduit par la psychologie. Tandis que si on a fait cette expérience-là, il n'y a plus de danger d'être séduit. Quand vous connaissez quelqu'un et que vous entendez le jugement du psychologue sur lui, vous dites « il ne le connaît pas » parce qu'il le lit de l'extérieur et pas de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut lire de l'extérieur ? La quantité. L'aspect quantitatif. Le conditionnement. Le conditionnement, c'est périphérique. C'est quantitatif. Si c'est périphérique et quantitatif, ça ne me fait pas comprendre la réalité. Vous voyez, celui qui fait 30 fois le périphérique autour de Paris ne peut pas dire « je connais Notre-Dame, le cœur de Paris, je connais la Tour Eiffel, la pointe de Paris, je connais la Concorde ». La place de la splendeur, et ainsi de suite. Je connais périphériquement, et donc je ne connais rien du tout. Oui, la périphérie. Alors, c'est intéressant de connaître la périphérie. Oui, les châteaux, les châteaux forts, anciens, on pouvait les entourer, on ne pénétrait pas dedans. Avant de pénétrer dedans, il fallait recevoir la poix. C'est la situation de celui qui connaît périphériquement. Il reçoit la poix. C'est-à-dire qu'il reçoit uniquement ce qui est secondaire, ce qui n'est pas la réalité profonde, ce qui est commun à tous les êtres. La psychologie, c'est ce qui est commun à l'imperfection de tous les êtres. Alors c'est plus ou moins gros, c'est plus ou moins petit, ça dépend. Plus ou moins dans l'imparfait. C'est très très important, ça, vous voyez, c'est capital, c'est pour ça que l'induction de l'acte est quelque chose d'absolument capital. Ça me délivre de mon conditionnement rationnel. Mais encore une fois, fois, quand je dis que ça me délivre, je ne l'abandonne pas. Je sais que j'ai besoin de ces cannes. Ce sont des cannes conjointes à mon être. Donc je ne les abandonne pas. Je ne peux pas abandonner la raison. J'en ai besoin. Je ne peux pas abandonner l'analyse. J'en ai besoin. Mais je sais que ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce n'est pas cela qui me conduit à la contemplation. Ce n'est pas cela qui me permet d'être intelligent comme tel. Ça me permet de discuter, de me défendre, d'analyser. C'est très très bien tout ça. Il le faut. C'est nécessaire. Mais ça ne me fait pas lire de l'intérieur. Je reste à la périphérie. Donc vous voyez, ce qui est très très important, c'est de s'arrêter à cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que la fin, ce qui est ultime dans l'être, l'ultime signification de l'être. Et je prends exprès signification pour... Parce que je suis dans l'ordre de l'interrogation. Et dans l'ordre de l'interrogation, c'est la signification. Je cherche à comprendre, je cherche à saisir. Moi, je n'interrogerai pas. Mais quand je me contente d'aimer, parce qu'il y a des êtres affectifs qui ne sont qu'affectifs, alors il suffit qu'ils caressent. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Si l'intelligence est là, or caresser, c'est l'extérieur. Celui qui veut comprendre, c'est l'intelligence. Il veut saisir. Entre le mode affectif, qui est très important dans ma vie pratique. Dans ma vie pratique, l'affectivité joue un rôle extrêmement grand. Mais ce n'est pas suffisant. Si je reste uniquement dans l'affectivité, je m'arrête. Stop. Je m'arrête. À un certain niveau. Et je n'irai pas plus loin. Et au bout d'un certain temps, les pneus s'usent. Et je dérape. Parce que je suis resté dans l'affectivité. Et que l'être humain ne se définit pas par l'affectivité. L'être humain se définit par le point de vue de la connaissance contemplative. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement important dans cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que la fin de l'être, sa signification ultime? Rester là longtemps. Cette interrogation porte, vous voyez, tout ce qu'elle doit porter. L'idéaliste, l'affectif pur, n'interroge plus. On n'a besoin que de son nounou, pas besoin d'autre chose. Et jusqu'à la fin, on a besoin d'un gros nounou, pas besoin d'autre chose. On ne s'aperçoit pas qu'il est en paille. Parce qu'on ne fait que le toucher. C'est extraordinaire, ça, mais c'est très important de comprendre ça, vous voyez. De comprendre les dépassements qu'il faut faire pour cette induction. Cette induction qu'Aristote a faite. Et je la vois nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Heidegger a compris qu'il y avait là quelque chose d'énorme. C'était le sommet de la philosophie grecque. Ça, il l'a compris. Mais il ne l'a pas revécu. Il est resté à l'intellekeion. Il le dit lui-même. Le sommet de la philosophie grecque, chez Aristote, c'est l'intellekeion. Pourquoi? Parce qu'il est encore trop prisonnier du primat subjectif. Il est encore trop prisonnier de Kant, la subjectivité transcendantale. Il est encore prisonnier de ça, alors il reste dans l'intellekeion. C'est déjà très beau d'avoir saisi l'intellekeion comme... Et alors il saisit l'amoureux de l'être, mais il ne saisit pas l'être. Heidegger, c'est l'amoureux de l'être. Ah, il est follement amoureux. Parce qu'on l'a oublié. pas qu'on l'oublie. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on veut pas qu'on l'oublie. Alors maladroitement, avec des pattes douces, on veut... Ah, regardez-le. Et alors, lourdement, venez, et c'est un peu ça. Il y a une espèce de lourdeur et qui fait qu'il ne peut pas découvrir l'être. Et Merleau-Ponty a découvert un peu ça quand il parle de l'être sauvage. Donc l'être qui se cache. Parce que c'est ça l'être sauvage. Le sauvage est celui qui se cache. Parce qu'il sait qu'il n'est pas suffisamment éduqué. Alors il se cache. Et Merleau-Ponty parle de l'être sauvage. C'est beau du reste. Et hélas, il est mort avant. Il a dû être ébloui par l'être sauvage. Alors il en est mort. Alors, découvrons bien cette interrogation. Cette recherche à travers l'amour. Entelekeia. À travers le bien. Et ma faim. Évidemment, pour contempler, vous êtes éveillé. Vous voyez, Aristote fait... faisait oraison tous les matins. Donc après s'être réveillé, il allait au temple. L'oraison. Je suis capable de faire oraison. Je fais oraison. Je suis capable de contempler. Je veux contempler. Seconde expérience. Troisième expérience. Je suis capable de travailler. Je travaille. Je suis capable de construire. Je construis. Et le travail, c'est construire. Philosophie de l'art. Tous les matins, vous faites ça. Hein? Tous les jours. Écoutez un cours, c'est travailler. Je suis capable de l'écouter. Je l'écoute. Et je mobilise mes forces pour l'écouter. Oui, je passe d'un état un peu nonchalant. Parce que peut-être que l'oraison, pendant 5 minutes, je suis resté en acte de contemplation et en désir de contemplation. Et après, le doux sommeil m'a repris. Alors je passe à un autre acte, capable d'écouter, d'être attentif et d'être attentif. C'est l'effort de volonté du travail, c'est l'application. Je suis capable de construire, je construis. Philosophie de l'art. Et on est tous comme ça. Je commence l'attitude du travail par l'attention. C'est l'attention qui est à la racine même de mon fatigué. Parce que si je ne suis pas attentif, vous savez bien, je fais la cuisine sans attention. Alors vous voyez ce que ça va faire. Hein. Vous allez mettre la casserole sur le feu sans voir qu'il n'y a pas de feu. Ça arrive. Et au bout d'une heure, on s'aperçoit que c'est pas fait. Et le café n'est pas chaud. Ou le lait n'est pas chaud. On a cru que c'était ça. Vous voyez, il y a eu la distraction. Et la distraction est de l'ordre de la potentialité et le manque d'application. Être éveillé pour le fatuer. Être éveillé pour la fatuer. Être éveillé pour la contemplation. C'est quand même des grandes expériences. Hein. Que je fais régulièrement, mais que je fais quelquefois nonchalamment. Et si je fais ces expériences nonchalamment, d'une façon nonchalante, je ne suis pas vraiment en acte. La potentialité demeure. Et la potentialité demeurant, je rate tout. La potentialité, c'est l'ouverture à toutes les tentations. C'est-à-dire à toutes les distractions. C'est tellement plus agréable d'être distrait. Il y a une espèce de force d'attraction terrible de rester distrait. C'est-à-dire c'est mon sommeil qui continue. Je suis somnambule. Ça a réussi une fois. Puisque ça a réussi, je continue. Mon critère d'éveil, c'est la réussite. Je n'ai pas besoin d'être plus éveillé, ça a réussi. Ça a chauffé. Et en réalité, je n'ai pas été très attentif. Tout juste. À moitié. Le passage de la potentialité du sommeil à l'éveil. Soyons conscients et soyons exigeants dans cette conscience et nous voyons que nous avons de la peine à passer à l'acte. Et nous avons de la peine de passer du sommeil au réveil. Tiens, ce sera pour tout à l'heure, mais je peux la m'habiller machinalement. Finalement, je sais très bien faire ça. Et je suis au cœur. Oui, c'est... Enfin, je suis veillé. Et je reste. reste un peu somnolent. Jusqu'au jour où il y a un frère qui est à côté de moi, qui me secoue, et dit, tu dors. Passage, les expériences type de l'acte à la potentialité. Le travail sur une matière brute, je m'applique à transformer cette matière. Le passage de la matière à la détermination, ça c'est radical. C'est radical.
Ces diverses expériences, je vois un homme.
l'impact se réalise à différents niveaux. Au niveau de la vie, au niveau éthique du vouloir, au niveau du faturé, au niveau de l'être. Puisque c'est à ces différents niveaux, c'est le niveau de l'être qui est présent dans ces différents niveaux. Et je vois qu'au niveau de l'être, tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et je saisis à ce moment-là que l'être en acte est bien ce qui donne le sens à toutes ces modalités de l'être en puissance. Toutes ces modalités de l'être en puissance n'ont pas de signification parfaite. Elles sont ordonnées à un autre état qui est l'être en acte. Je mets tout mon effort par l'interrogation à saisir ce qu'est cet être en acte. Il faut que tout se ramène justement à ce fait que l'être en acte, c'est ce qui est ultime, ce qui finalise, ce qui donne un sens parfait à tout le reste. Cet être en acte est au-delà de l'exercice, puisqu'il le finalise. Il est l'être parfaitement lui-même. C'est l'être en acte. Alors vous voyez ce que l'induction va réaliser. L'induction compare deux états, un état imparfait, un état parfait. Et je vois que l'état parfait seul donne à l'état imparfait sa parfaite signification au niveau de l'être. Et donc que l'état imparfait ne peut exister que s'il est tout entier tourné vers l'état parfait. Et que l'état parfait, c'est l'être en acte qui, lui, est indépendant de l'être en puissance, puisqu'il l'achève, puisqu'il fait mieux que lâcher, puisqu'il est en acte. Tandis que l'être en puissance est tout entier dépendant de l'être en acte. Donc voyez que là, il y a une saisie à l'intérieur de l'être qui est toute nouvelle, qui n'est plus quantitative, qui est au-delà de l'ordre de ce qui est en puissance vers ce qui est en acte, et qui s'impose à moi comme l'être fin, l'être parfait, l'être qui est entièrement lui-même. Je peux saisir pour lui-même, parce qu'il est parfaitement intelligible. C'est très vrai, c'est à travers l'être en puissance que je le saisis. Mais l'être en puissance ordonné à l'acte, donc l'entelekeia, c'est à travers l'entelekeia que je saisis l'être en acte. Et quand je saisis l'être en acte, je le saisis comme lui-même finalisant